Hébreux chapitre 3, chapitre 12 à 14. Enseigne ce que vous voyez sur l'écran. Ce n'est pas juste une idée que je suis tombé dessus, c'est l'enseignement. Entre autres, c'est l'enseignement de ce passage ici, en Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12, qui dit, et si vous voulez regarder maintenant à l'écran, vous pouvez, parce que je vais le remettre à l'écran. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Ça, c'est la première idée, en verset 12. Deuxième idée, en verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième idée. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc, je vais le mettre ici sur l'écran pour que vous puissiez essayer de saisir. La première chose que nous voulons voir dans ce passage, c'est que Dieu nous appelle à la vigilance contre un cœur mauvais et incrédule. À chaque chrétien, je vous prenez garde, frère, que quelqu'un de vous, frère, quelqu'un de vous, n'ait un cœur mauvais et incrédule jusqu'au point où il se détourne de Dieu vivant. Nous avons un enseignement clair que le chrétien doit travailler à persévérer dans sa foi chrétienne jusqu'au bout. Parce que le chrétien est assailli par le monde comme tout le monde, enfin différemment que les autres. Avant de connaître Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous étions dans le monde. Nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous étions dans le flux du monde. Les idées du monde étaient nos idées. Il y avait des choses qu'on n'aimait pas trop, mais la mentalité du monde, qui est au fond à une mentalité où Dieu, s'il existe, existe pour moi. Je suis le centre de mon univers, je suis le centre de tous les univers qui sont importants. C'est le moi, chacun pour soi, gentiment bien sûr. Soyez sages envers les autres personnes, accumulez des amis. Mais je suis le centre de mon monde et en fin de compte, chaque décision est tournée vers mes intérêts ou immédiats ou dans l'avenir. C'est comme ce Chambers dans son livre « Tous pour qu'il règne » dit quelque part, je ne sais pas, lequel exactement, mais quand dans le monde, chacun regarde à qui que ce soit qui vient vers lui, est-ce que je peux en profiter de lui ou non? Il sera mon ami, il sera distant par rapport à mes désirs, par rapport à moi et lui dans cette relation, que ça soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans la recherche du travail, chacun est un adversaire potentiel ou un agent de profit pour que je monte dans mes ambitions. Chacun est un potentiel agent, pas sur quoi je peux me poser dessus pour lancer mes intérêts. Grâce à lui, grâce aux autres, je suis reconnaissant, mais mes intérêts sont primordiaux. Ça, c'est le monde. Ça, c'est normal. Ça, c'est comme nous avons tous pensé. En Christ, ça commence à changer. On a commencé à voir, on n'existe pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes, nous sommes créés pour Dieu. Et, suivant ce passage, une vigilance est absolument essentielle parce qu'on ne avance pas automatiquement. On avance exprès parce qu'on nage. Et pour nager, il faut de l'effort. Et pour aller contre-courant, on peut s'arrêter de nager. Mais le moment où on s'arrête de nager, on commence à aller vers le flot. En tant que chrétien, il y a ces moments comme cela. Mais la mentalité, la direction d'un véritable chrétien, c'est qu'il nage. Il ne flotte plus. Il nage. Et il nage contre-courant. Et ça sera le cas jusqu'au dernier jour de sa vie. Et Christ est à côté de nous. Oh, combien la Bible est pleine de passages qui nous montrent cela. Il est à côté de nous. Dieu nous appelle à la vigilance contre un cœur mauvais et incrédule. Mais la deuxième chose que ce passage enseigne, c'est que Dieu nous appelle au soutien mutuel de la foi de l'un l'autre. Verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres, exhortez-vous, frères, les uns les autres, quand, quelle fréquence, chaque jour, jusqu'à quand, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, chaque jour on dit aujourd'hui, pas demain, pas hier, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui existe. Je me suis réveillé. Quel jour est-il? Il est aujourd'hui. Annie et moi, nous cherchons normalement à dormir à partir de 11 heures le soir, mais souvent il est presque minuit et on a le montre qui flash contre le plafond. On aime ça parce qu'on peut regarder n'importe quand. On est tous les deux des dormeurs légers. Et puis plusieurs fois dans la nuit, on regarde ça pour voir quelle heure il est. Et parfois, je vois 0.01. Et j'ai dit à Annie, il est demain. Il est demain. Non, il n'est plus demain. Il est maintenant un nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est encore repris aujourd'hui. Parce que la difficulté de maintenir un équilibre spirituel est si forte et qui exige une vigilance constante parce qu'on nage contre courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances. Qui veut des vacances quand on apprend de plus en plus les merveilles de nager avec le Seigneur contre courant? Mais la chair et contre. Les traces de rébellion, les fatigues émotionnelles, spirituelles, physiques, est constamment là. Et très souvent, pire, c'est parfois de l'autre. La possibilité de jeter l'éponge, parce qu'il n'y a personne autour de nous qui nous encourage, parce qu'il n'y a personne qui nage avec nous, parce qu'on se sent tout seul, parce qu'on reçoit les suggestions de l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais? C'est bête. Il n'y a pas de réalité dans ce que vous faites. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi? Afin que aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Wow. Il y a cette question de mauvais, verset 12. Il y a cette question de incrédulité, verset 12. Il y a cette question de endurcissement du cœur, verset 13. Il y a cette question de séduction du péché, verset 13. Un véritable problème, un véritable danger constant qui ne sera jamais trop loin de nous. Et le danger de la prospérité est pire que le danger de l'adversité. Je répète, le danger de la prospérité est plus dangereux que le danger de l'adversité. Parce que dans la prospérité, même on n'a pas envie, on se lâche, on se distrait, on pense qu'il n'y a plus de guerre. Le chrétien devrait toujours être armé, parce que la vie chrétienne est une vie de guerre. C'est un combat, c'est un bon combat. Mais l'apôtre Paul disait, faites le combat de la foi. C'est un bon combat. C'est un combat merveilleux. C'est un combat que lorsqu'on est en train de nager, de combattre contre toutes les inclinations qui sont contre tout cela, nous avons la certitude implantée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui confirme la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes ceux qui combattent pour la foi de notre personne et de toutes les personnes dans l'Église. C'est pour cela que, entre autres, l'Église locale existe. Nous ne pouvons pas vivre tout seul. Nous ne pouvons pas nager tout seul. Il est dans le plan de Dieu, non simplement que nous soyons vigilants, mais que nous soyons vigilants les uns aux autres pour ceux qui ont besoin et pour ceux qui sont en train de nager. Que des chrétiens se mettent ensemble pour... Ça, c'est une des raisons pour que nous a posé la question tout récemment. Mais pourquoi vous passez si longtemps un dimanche ensemble dans l'église? Et j'ai dit, franchement, c'est purement pragmatique, dans le sens que on avait décidé, on avait cherché plusieurs solutions, on a cherché ce qui était bien pour tout le monde, on a demandé l'avis de tout le monde, on demandait l'avis des dames qui devaient faire des repas toutes les semaines, et puis vous venez à 10h30 pour le culte, et puis vous restez pour manger ensemble autour d'une table pendant 1h30, puis après vous avez la classe biblique, et vous étudiez encore la Bible, et puis après il y a le dessert. Et puis, après, tout le monde peut partir quand ils veulent, mais il reste encore une trentaine, quarantaine, cinquantaine, une heure. Et voilà. Pourquoi vous faites ça? Il y a beaucoup d'églises qui ne font pas ça. L'église primitive faisait plus que cela. L'église primitive faisait ça depuis... Parce qu'il était toujours marqué par le calendrier et le temps horaire juif. Le lendemain commençait au coucher de soleil vers 18h. Et quand ils ont enlevé Jésus sur la croix, rapidement, parce que 18h arrivait, le sabbat donc commencerait, le sabbat pour demain commencerait ce soir à 18h. Et il faut enlever le corps de la croix avant le sabbat. Et l'église primitive avait ce même horaire. Donc, beaucoup de gens venaient de loin, ils étaient là pour dormir, pour qu'ils fassent la totalité de lendemain, en faisant la Sainte Cène, en faisant les cinq choses que nous lisons en Actes chapitre 2, versets 42 et 47. il poursuivait dans l'enseignement des apôtres l'explication de la doctrine de Jésus-Christ, de sa mort sur la croix, de sa résurrection parmi les morts, de son ascension au ciel, de sa descendance par le Saint-Esprit pour faire naître l'Église à Pentecôte, et de comprendre les doctrines de notre, non simplement notre justification, mais notre sanctification jusqu'aux glorifications. Ils priaient ensemble, ils passaient beaucoup de temps dans la Sainte Cène, tous les dimanches. Et puis, dans la communion fraternelle, qui n'était pas juste beaucoup de blabla chrétien, si je pourrais le dire, blabla innocent, qui n'est pas en soi mauvais. Mais l'apôtre Paul en Éphésiens nous parle de que toutes les choses qui sortent de notre bouche devraient être d'une manière nourrissante, édifiante, qui peut nous encourager, d'une manière exhortative. Ça, c'est une des raisons que nous nous mettons autour des tables. Je me rappelle dans d'autres fois, on avait un grand corps de jeunes très, très, très fondés dans la parole de Dieu. On cherchait à placer différents jeunes sur différentes tables pour que si jamais la conversation allait n'importe où sans aucune édification du tout. Oui, il faut parler de la vie, il faut parler de la semaine dernière. Mais on est ensemble en tant que chrétiens pour exhorter les uns les autres, pour dire des choses. Et donc que les jeunes cherchent à, avec délicatesse, avec discrétion, mener la conversation dans une direction un tout petit peu plus élevée et plus élevée, pour que ça soit pas des sessions de mysticisme, pas du tout, du tout, mais de poser des questions les uns sur les autres par rapport à leur combat, par rapport à nager dans cet océan où toute la mentalité est contre ce qu'ils font. Et c'est ce que je prie pour, ça c'était la raison d'être. Et je sais que ça a lieu autour des tables aussi. La nécessité pour que des chrétiens s'engagent en aidant les uns les autres. Parce que ce que nous lisons dans ce dernier passage, Dieu nous rappelle des évidences de la sécurité de notre salut. La Bible enseigne que le croyant est sécurisé en Jésus-Christ. Et nous lisons, nous sommes devenus. J'aime bien que vous regardiez le temps de ce verbe ici. Temps passé composé, nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ce n'est pas un verset qui est en train d'enseigner, est-ce que tu veux être un participant de Christ? Tu ne peux pas, jusqu'à ce que tu ailles jusqu'à la fin, tu persévères jusqu'à la fin, et quand Dieu voit le dernier jour, tu es encore là, Dieu va dire, voilà, participant de Christ. Ce n'est pas l'enseignement de ce verset du tout. Nous sommes devenus participants de Christ. Pour essayer de mieux comprendre cela, essayer de changer ça au contraire. Pour que, si ça disait, si nous ne retenions pas fermement jusqu'à la fin notre assurance que nous avons eue au commencement, nous ne sommes pas participants en Christ. Parce que la persévérance, la sécurité du croyance, la sécurité de notre salut n'est pas basée sur une chronologie, une accumulation de faits jour par jour par jour où vous persévérez jusqu'à vous avez gagné le salut, vous avez gagné votre standing en Christ. Non, la justification du croyant qui met le chrétien dans le bain de la sanctification pour que maintenant il nage dans une direction où il ne pouvait jamais, c'est parce qu'il est en Christ. Et parce qu'il est en Christ, il va persévérer jusqu'à la fin. La preuve de son salut, c'est parce qu'il nage tous les jours ce que une personne qui ne connaît pas le Seigneur ne pourrait jamais faire. Ah oui, il peut venir à l'église, il peut participer dans des activités, il peut faire une liste qu'il faut faire et une liste qu'il ne faut pas faire, et il peut garder rigoureusement cette liste. Mais dans le salut, contre-courant, de anti-salut, il ne persévérera jamais. Je n'ai pas mis sur l'écran, mais si vous avez vos Bibles et vous voulez juste tourner dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, l'apôtre Jean va dire la même chose. Il va dire, verset 19, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Verset 18, « Et comme vous le savez, un antichrist vient. » Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Voilà, nous connaissons que c'est la dernière heure, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Certaines personnes qui étaient dans leur milieu, qui semblaient-ils être chrétiens, mais ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas le nôtre. Car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Exactement ce que l'apôtre est en train d'enseigner dans ce passage. 1 Jean 2, 19. Nous sommes devenus participants de Christ. Le fait que nous sommes devenus participants de Christ voudrait assurer le fait que nous allons retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance de notre salut, parce que c'était un don surnaturel que le Seigneur donne à ceux qui croient, le don de la foi, c'est surnaturel. Pour ainsi dire, il ne peut pas ne pas croire, et il ne peut pas ne pas persévérer jusqu'à la fin. Il va persévérer, mais il ne peut pas sans votre aide. Écoutez, et l'évangélisation est une chose que Dieu aurait pu faire avec des anges sans l'humanité. Ça aurait évité beaucoup de problèmes dans notre chair, dans notre égocentrise, même en tant que chrétien, des traces de notre ancienne nature qui est constamment là et qui nous fatigue et qui nous donne envie. Oh Dieu, j'attends le moment où je serai entièrement avec toi et libéré de cette égocentricité qui m'embête tout le temps, au moment où je me sens le plus pieux. John Bunyan qui disait, il y a assez de péché dans ma prière la plus pieuse pour condamner le monde entier. Il reconnaissait le saleté, le péché, la souillure qui est même dans les traces d'un chrétien sanctifié et qui court maintenant contre-courant dans sa vie chrétienne. Et nous sommes comme cela. Et Dieu nous a sauvés pour que nous puissions persévérer. Oh, chers amis, ça devrait être pas quelque chose d'effrayant, au contraire. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai accepté Christ, je suis sauvé parce que Christ a décidé de m'accepter. Beaucoup disent, j'ai accepté Christ. Ça, c'est une question de profession, mais ce n'est pas une question de possession. Ce n'est pas vous qui possède Christ parce que vous acceptez Christ. C'est Christ qui nous donne lui-même. Il y a plein de gens qui professent. Je parle à des gens tout le temps. Oui, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. D'accord, ça c'est une verbalisation d'un désir, ça n'a rien à faire avec si vous êtes en Christ ou pas, ça c'est une décision, mais vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez décidé, vous êtes sauvé parce que Christ a décidé. Vous êtes sauvé parce que Christ a décidé de nous sauver. Donc, Dieu nous rappelle des évidences du salut. Nous sommes fermement dans le Seigneur, établi, participant, nous sommes devenus. Si nous ne retenions pas, nous ne sommes pas devenus. Mais si nous sommes devenus, nous allons retenir jusqu'à la fin. Oh, ça devrait nous donner courage parce que notre chemin est faible. Comme je vous ai dit, quand nous avons reçu cette annonce vendredi matin, c'était bouleversant. Je me sentais petit comme je suis. Je me sentais vulnérable comme je suis. Quand tout va bien, je me sens pas trop vulnérable. J'en avais besoin, vous en avez besoin. Et nous apprenons comment vivre dans cette attente que le Seigneur ne fait jamais à aucune erreur. Il sait exactement ce qu'il est en train d'accomplir. Il va accomplir à la lettre ce qu'il a proposé par chaque douleur qui permet dans la vie de qui que ce soit, que ce soit de courte, que ce soit pas d'intensité, que ce soit très intense, que ce soit une intensité qui dure toute une vie, le Seigneur va accomplir pour notre bien, pour notre joie, pour notre liberté, pour notre sanctification, ce qu'il a prévu. Et ça, c'est le courage, la joie que le chrétien peut avoir. Comment sera la question pour ici? Comment pourrait-il que nous soyons en train de faire ça? C'est une chose de parler de cette nécessité de se soutenir les uns les autres. Je vais terminer par donner une liste de versets que je vais appeler, avant de faire ça, j'aurais dû penser à ceci d'abord. Qu'est-ce que cet avertissement? Cet avertissement est contre la séduction du péché. La séduction du péché qui est constamment là. Le péché de un plaisir illicite. Le plaisir de colère. Le péché de ambition égocentrique. Le péché de vouloir des richesses pour notre propre ambition, etc., etc. La séduction de péché est constamment là. Et vous êtes en train d'être séduit. On a besoin des uns des autres parce que la séduction de péché mène à l'endurcissement du cœur, selon notre passage. Et le cœur s'endurcisse, c'est-à-dire se désensibilise sans que nous constations. C'est une chose qui est constamment en danger. Et cet endurcissement de corps mène à un cœur mauvais et incrédule. Et cet mauvais et incrédule cœur mène finalement à un abandonnement de Dieu. Et chers amis, il y a des gens qui abandonnent l'Église tous les jours. Parce que la séduction du péché, qui est le mensonge contre la croyance. Et quand on est en train de détourner, Satan m'offre ceci, ce plaisir, le monde donne cette offre. Je suis tenté à accepter. Et quand ça soit le cas, La foi dans les plaisirs que Christ donne sans limite, beaucoup plus élevés, où il n'y a aucune contraste quand on peut voir la réalité des deux. Je vois plus la réalité des plaisirs en Christ, mais j'écoute le mensonge qui endurcit encore mon cœur, qui fait que mon cœur devient de plus en plus incrédule et qui termine par que j'abandonne. Chers amis, je suis appelé, vous êtes appelés de veiller sur la vie de votre, de la personne à côté de vous, devant vous, derrière vous, dans l'église. Et voilà 20 manières de faire ça. Rapidement, sans beaucoup de commentaires. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout à l'heure, dans la classe biblique, nous allons continuer ceci dans le contexte du monde. Le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Et comment ça se fait qu'il peut nous pouvons aider les uns les autres de vivre dans le monde, mais pas du monde. La première chose serait le mot aimer. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la chose qui couvre tous les autres 19 que nous allons voir. Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. C'est de dire exactement cela. Soyez accueillants les uns envers les autres pour la gloire de Dieu. Ça sera une bonne chose quand votre frère nage. Il ne vient pas ici dans un culte stoïque où personne ne s'intéresse à personne que lui-même, que ce soit le plus court possible pour que je puisse faire, j'ai fait mon devoir religieux, je veux sortir. Il y a beaucoup de monde qui font ça tous les dimanches pendant 1 heure, 45 minutes. Accueillez-vous les uns les autres. Je parle que dans, pas ici le dimanche, mais dans la semaine, 1 Corinthiens 12, 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin. L'image, n'est-ce pas, c'est le corps. Une autre dimension associée que je n'avais pas constatée avant, c'est que chaque chose que un des membres de mon corps agit, il n'agit jamais dans son propre intérêt, mais toujours dans l'intérêt d'un autre membre. Les dames devant le miroir ce matin en mettant le maquillage. Et vous prenez votre main gauche parce que vous êtes gaucher comme moi. Non, votre main droite. Et puis votre main existe en ce moment, pas pour lui-même, mais pour vous maquiller. Chaque mouvement de chaque membre de ton corps est en train de bouger en faveur d'un autre membre. Jamais pour lui-même. Alors, pour réfléchir, le corps chrétien devrait être comme cela, idéalement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Oh, mais combien nous pouvons, si nous venons à l'aide de l'un l'autre, se mettre au service. Chacun de vous est doué ou quelqu'un d'autre ne l'est pas, et que les chrétiens se mettent au service des autres, le don qu'ils avaient reçu, parce que vous n'avez pas reçu un don pour toi, vous l'avez reçu pour d'autres. Pour Dieu et pour les frères et sœurs en Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettre cet amant qui nous dérange parce que ça suggère une autorité contre quoi on n'est pas visé de voir ça. On est tourné contre. Mais c'est une soumission volontaire où chacun se place un dessous l'autre pour que ses besoins soient exaucés. Imaginez que ça arrive tout le temps. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Poursuivre le bien les uns des autres, afin que votre frère puisse être encouragé. Il allait arrêter cette semaine, mais parce que vous avez prenez son bien en main et vous avez encourager cette personne. Il va encore continuer cette semaine de nager contre courant. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. La bonté les uns envers les autres. Si je ne souligne pas le mot, c'est parce que ça va arriver bientôt. N'abandonnez pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns, ce n'est pas un verset, comme j'avais souvent entendu quand j'étais plus jeune, ce n'est pas un verset qui dit « Vous devez venir à l'église le dimanche. » Vous devez venir à l'église le dimanche. Mais ce n'est pas un verset qui parle de cela. Au contraire, c'est un verset qui parle de le rassemblement des chrétiens dans des lieux à gauche et à droite pendant la semaine pour qu'ils s'encouragent les uns les autres. Encouragez-vous réciproquement. Veillons les uns sur les autres, Hébreux 12, 24, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Chacun appelé à veiller sur son frère. Vous ne saurez pas si votre frère veille sur toi parce que tu es trop pris par veiller sur lui. Vous ne saurez pas si vous n'avez pas un ami parce que tu es trop concentré à être un ami. Combien de gens, à travers les années de mon ministère, Robert, j'ai pas d'amis. Nous ne sommes pas appelés d'avoir des amis. Nous sommes appelés être amis. Et celui qui est ami aux autres, il n'a pas de problème pour avoir des amis. Il ne saura pas. Parce que ça sera tellement naturel en train d'être ami des autres. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, c'est notre texte. Exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire les mots, parfois interchangeablement avec encourager, mais des mots qui ont de substance, qui soutiennent que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Et le mot ici, c'est avertissez. C'est un peu délicat, parce que ça c'est quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, mais vous avez la grâce et la discrétion, la profondeur, mais la grâce de quand même amener une autre personne vers une réalisation qu'il devrait prendre un autre chemin. Ce qu'il fait n'est pas dans le bon sens. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Combien les cantiques que nous chantons les dimanches, ce matin, j'avoue, je faisais plus d'attention que parfois, et j'ai vu tous les mots profonds dans ces cantiques qui étaient pour moi une source d'encouragement. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Et dans certaines traductions, soyez en harmonie. Ce n'est pas à dire que tout le monde est d'accord avec votre idée, que vous êtes d'accord avec les autres, et qu'ils ont une personnalité qui vous gratte, mais il y a des personnes dans l'Église de Christ qui peuvent tourner dans des milieux, et quand il y a des conflits, ils sont comme de l'huile entre deux choses qui grattent l'un contre l'autre. Ils ont une capacité, une humilité, un savoir, une spontanéité qui font harmoniser les gens. Et le moment qu'ils apparaissent, les conflits ne semblent pas si importants que ça après tout. Parce que les conflits sont normalement basés sur des choses qui ne font pas parler du problème. Le problème, c'est à l'intérieur, il fallait quand même quelque chose de visible pour attacher l'avancement de mon amour de soi. 14. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Consolez, c'est le mot que je souligne dans ce verset. Consolez-vous les uns les autres. C'est plus que simplement venir avec un mot tendre et doux. Et nous avons reçu cette semaine dans notre boîte aux lettres et les mots de consolation très sincères est très touchante et nous sommes vraiment reconnaissants de cela. Nous devrions faire cela les uns aux autres constamment. Numéro 15. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance, capable de vous exhorter les uns les autres. Et j'ajoute, sans savoir que vous exhortez les uns les autres. Ça, c'est la maturité de la chrétienne qui se met ensemble. Les mots qu'ils font sont encourageants. C'est une exhortation qui n'était pas visée pour que ce soit une exhortation. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, arrête, je prends 3 minutes pour vous exhorter. Ce n'est pas ça. C'est une conversation qui est libre, qui est spontanée, mais quand même qui mène vie dans la vie des autres. Romains 12:10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur. Et je voulais juste souligner l'activité de honorer les personnes. Quand les gens viennent, ou quand vous voyez d'autres personnes, un frère et sœur en Christ, est-ce qu'ils voient que vous le regardez avec un air de condescendance? Si jamais je vous parle, c'est parce que je gaspille quelques secondes pour vous donner, vous qui ne le méritez pas. Non. Mais que chaque personne soit honorée comme image de Christ, qui a une valeur, comme C.S. Lewis disait, il y a dans l'avenir un grand démon ou un ange si parfait dans le futur. S'il était comme ça aujourd'hui, vous serez tenté de se prosterner devant lui pour l'adorer. Ça, c'est le potentiel de cette personne qui est devant vous en ce moment. Que ce soit un SDF qui n'a pas connu une douche depuis un mois, que ce soit qui que ce soit, créé dans l'image de Dieu, vous voyez un potentiel diable ou un potentiel ange. Et une personne qui mérite être honorée purement parce qu'il est un être humain. Combien plus nos frères et sœurs en Christ. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, ça veut dire exactement ce que ça suggère de dire. On supporte ce qu'on n'a pas envie. Mais on a envie parce que cette personne est différente que moi. Sa personnalité et ma personnalité ne s'entendent pas normalement. Mais je commence par supporter quand même. Comme une fois, j'avais du mal il y a des années, pas ici même à Bordeaux. Une personne qui me grattait, j'avais du mal à le supporter, et quelqu'un m'a dit, mais Robert, quand tu vois cette personne en train, prie, Seigneur, je vais aime cette personne à travers moi. Moi, je peux pas, Seigneur, je peux pas aimer cette personne, mais toi, tu l'aimes, je le sais. Donc, aime-lui à travers moi. Ça m'a débloqué. On est devenu très proches amis après. Supportons d'abord, mais après, pardonnez les uns les autres. Même verset. Pardonnez-vous réciproquement. Plus qu'on aime quelqu'un, plus qu'on pardonne sans formaliser le pardon. On se pardonne sans savoir. Les choses que nos époux ou épouses acceptent de nous, qu'ils n'accepteraient pas avec d'autres personnes. Mais nous pardonne sans réflexion. Et en tant que chrétien, un esprit de pardon, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. J'aurais dû souligner les deux mots. Prions. Ce que nous devrions faire les uns pour les autres. Je sais que beaucoup font ça. Et je le fais pour beaucoup de vous aussi. Et confessez vos péchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours avoir une réunion pour faire la liste de tous les péchés et puis lire la liste en public devant les autres personnes. Ce n'est pas du tout ça. C'est de reconnaître quand nous avons mal fait. Imaginez un père qui rassemble sa famille autour de lui et qui dit, j'en avais 5 enfants et nous avons cherché à pratiquer ça. Paul, Daniel, Donna, Timothée, Shona. En tant que papa, je dois demander pardon pour la manière que j'ai réagi hier. C'était pas Christ en moi qui agissait comme ça. J'ai besoin de votre pardon. Et à chaque fois, ils m'ont pardonné. Oui, papa, je te pardonne. Faut d'humilité pour faire ça. Combien de fois je ne l'avais pas et je ne le faisais pas comme je l'aurais dû. Mais le chrétien se confesse, oh combien ça pourrait remettre une personne qui est en train de faire comme ça sur la bonne route. Et exercer l'hospitalité. 1 Pierre 4, 9. Et il y en a d'autres dans la Bible. Cet après-midi à 14h, quand nous faisons la classe publique, je vais vous donner un imprimé avec ces mots qui sont soulignés, avec un espace. Et si nous sommes une vingtaine, on va se diviser en plusieurs groupes. Vous prenez les 5 premiers, les 5 deuxièmes, les 5 troisièmes, les 5 quatrièmes, et prenez un seul parmi ce groupe de 5, un seul parmi ce groupe, et développez entre vous pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Comment ça pourrait être mis en pratique dans notre assemblée, pas le dimanche, forcément, mais dans la semaine, parce que j'en ai besoin. Et le double bénédiction, c'est quand vous êtes celui qui donne, vous êtes deux fois plus béni que celui qui a reçu. Ça, c'est un principe que vous avez déjà sans doute expérimenté dans petits différents domaines de votre vie. Quand on donne, on est plus satisfait et reconnaissant que quand on reçoit de la part des autres. Oui, on est reconnaissant, bien sûr. Mais la satisfaction de donner de notre vie, de notre respect, de notre honneur aux autres personnes, qui change. Nous avons une expression en anglais, that made my day. Ça fait mon jour. C'était la chose la plus brillante sur toute son agenda pour la journée. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont intéressés par lui dans le monde. Ce monde est plein de solitude, solitude, solitude. Dans la foule sur le tram, on voit plusieurs centaines de gens seuls. Solitude et souillure, les deux choses qui sont l'effet de la chute. Éloigné de Dieu et donc éloigné des uns des autres parce que chaque personne est un potentiel adversaire. Il vaut mieux que je n'en parle pas. Ça change dans le Seigneur. C'est merveilleux.